Donc, je me représente en quelques mots. Je suis psychologue clinicienne et en fait, depuis longtemps, moi, j'étais intéressée par la question de la famille et puis des relations parents-enfants. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans des services de protection de l'enfance et puis aussi auprès d'adolescents présentant des handicaps. Et aujourd'hui, j'ai plus orienté mon activité autour de l'accompagnement à la parentalité. Donc, ce soir, on va réfléchir autour du sentiment de culpabilité qu'il est possible de ressentir dans le lien à son enfant, dans son rôle de parent. Je vais amener des pistes de réflexion, pas de recettes miracles. Et en fait, j'ai choisi moi d'aborder dans un premier temps, essayer de réfléchir ensemble d'où vient un peu ce sentiment de culpabilité, et puis d'aborder deux situations qui peuvent particulièrement engendrer ce sentiment. C'est quand il y a de l'opposition de l'enfant ou du conflit, et puis quand le parent est amené à poser l'autorité auprès de son enfant. Donc, être parent, c'est une tâche qui est difficile à mener, pour laquelle on se pose plein de questions et pour laquelle on peut avoir des doutes. Et aujourd'hui, par rapport au discours un peu des professionnels, on parle, je ne sais pas si c'est un terme dont vous avez entendu parler, de compétences parentales. Donc, ce terme, en fait, il a un apport positif qui est de reconnaître des compétences aux parents et un savoir sur leur enfant. Et puis l'aspect plus négatif, c'est que la compétence, elle arrive aussi comme une norme. Et du coup, la norme, ça produit des modèles et ça dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou si on fait bien ou si on ne fait pas bien, du coup. Donc aujourd'hui, les professionnels, en fait, qui travaillent autour du concept de parentalité, ils déclinent en fait l'être parent en 3 axes. Le premier, c'est un axe qui est juridique, c'est-à-dire qu'être parent, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Et sur cette dimension-là, la société, elle a un regard et elle peut même intervenir. Donc, elle va proposer en fait des aides. Alors, ça peut être sur la manière d'éduquer ses enfants ou par rapport à la scolarité. Et ça peut aussi renvoyer à certains moments de la culpabilité ou le sentiment de pas forcément y arriver seul ou de mal faire. Le deuxième axe, alors, c'est ce qu'on appelle l'expérience subjective. Donc, en termes plus simples, c'est la manière dont chacun est parent, avec ses émotions, son histoire, ce qu'il a imaginé ou pas pour son enfant, ce qu'il a imaginé en positif ou ses craintes aussi en négatif. Et là, en fait, chaque parent est singulier, il n'y a pas un modèle qui est valable pour tout le monde. Et on est parent avec sa propre histoire, avec ce qu'on a aussi rencontré. Donc du coup, des modèles ou des souvenirs positifs, et puis aussi peut-être des difficultés pour certains. Et donc, sur cette dimension-là, il y a aussi une culpabilité qui est plus interne ou inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais on est aussi parent avec l'enfant qui arrive, et un enfant qu'on a imaginé, qu'on a rêvé, et celui qui, une fois arrivé dans la réalité, n'est pas forcément celui qu'on avait rêvé. Donc, il y a toujours une différence. Et peut y avoir même une forme de déception. Donc ça peut susciter de la culpabilité, mais c'est plus interne, plus inconscient. Mais n'empêche qu'elle peut être là quand même et présente chez chaque parent déjà à l'arrivée de l'enfant. Le troisième axe, c'est celui que je vais essayer de développer un peu plus, c'est l'axe de la pratique. Donc ça, c'est tous les actes au quotidien en fait que peut poser un parent. Donc ça va de préparer un repas, nourrir, changer, les moyens de garde qu'on met en place, comment on choisit d'éduquer son enfant. Et alors sur cet axe-là, c'est là où il y a le plus de discours et de méthodes ou de modèles qui sont proposés et qui sont aujourd'hui, moi je trouve, des modèles très différents. Et on peut lire tout et son contraire. Donc pour les parents, c'est quelque chose en fait qui les rend sans doute un peu confus ou perdus. Et qui peut du coup renforcer ce sentiment un petit peu de culpabilité. Et aujourd'hui, on demande aussi beaucoup aux parents dans les modèles un peu de parentalité qui sont proposés. Le parent, il doit être attentif à son enfant, il doit savoir l'écouter, il doit savoir le gronder, il doit savoir l'aider pour sa scolarité. Enfin bref, il doit être un peu pédagogue, psychologue, magicien, je sais pas. Enfin, en tout cas, un parent comme ça, je pense que ça n'existe pas. Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas, tous ces conseils, eh ben, ça peut amener du doute ou des questions dès qu'on a l'impression qu'on s'écarte un peu des modèles qui peuvent être proposés. Et moi, par exemple, dans ma pratique, j'ai pu rencontrer des parents qui pouvaient culpabiliser par rapport à la question de leur travail. Ne pas se sentir assez disponible, en fait, par rapport aux enfants, avoir l'impression d'être parent à temps partiel ou que la nounou passait plus de temps avec les enfants et que ça suscitait de la culpabilité. Dans des cas aussi de parents séparés, du coup, il y a la culpabilité du parent qui n'a pas son enfant auprès de lui au quotidien. Et là aussi, moi, dans les exemples que j'ai pu rencontrer, alors j'ai plus parlé des papas, parce qu'il se trouve que c'était en majorité des papas qui voilà, pouvaient dire combien c'était compliqué aussi sur ces moments où ils avaient envie de prendre du temps avec leurs enfants, jouer et partager plutôt des moments de détente et avoir l'impression en fait de gâcher ce temps parce que fallait qu'ils interviennent pour punir ou se fâcher auprès des enfants. Et ça pouvait être compliqué. Donc cette culpabilité et ces angoisses, elles sont liées aux incertitudes du bien faire et toutes les questions que peuvent se poser les parents. Et la compétence, elle renvoie un peu du côté du modèle du parent parfait, alors qu'il y a certains auteurs, alors assez anciens maintenant, mais comme un psychologue américain, Winnicott, qui lui parlait alors à l'époque de mère suffisamment bonne, mais maintenant je pense qu'on peut dire un parent suffisamment bon. Et ça renvoie plutôt à l'idée d'une base en fait de sécurité que chaque parent a envie de transmettre à son enfant. Et du coup, ça laisse aussi des marges d'invention, des marges d'erreur, et ça laisse de la place pour chaque parent. Et donc il y a de nombreux auteurs qui ont pu dire qu'on ne naissait pas parent mais qu'on le devenait, et que ça va plutôt dans le sens en fait d'une expérience qui se construit entre chaque parent et chaque enfant, et que en fait pour ça il n'y a pas de modèle ou de méthode, parce que c'est chaque parent avec ce qu'il est qui va du coup amener des choses à son enfant et imaginer des choses pour lui. Alors moi, je voulais aborder un petit peu la situation de l'opposition ou du conflit. Alors je vais l'aborder plus pour le petit enfant, mais ça s'applique aussi aux ados, pour ceux à qui ça parle plus. Vers 18 mois jusqu'aux 3 ans à peu près de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la phase d'opposition qui apparaît. Donc l'enfant, il commence à dire non à tout ce qu'on lui propose, il va résister à ce qu'on lui demande aussi, alors après de manière plus ou moins virulente, hein. Il peut y avoir des coups, des pleurs, des cris, des colères. Et lui, en fait, il a envie de faire les choses tout seul, et il va commencer à aller explorer un petit peu ce qui n'est pas forcément autorisé, donc il va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans la poubelle, toucher les objets qui se casse, il veut plus manger ce qu'on lui donne, il veut plus aller prendre son bain, mettre ses chaussures, son manteau pour aller à l'école. Enfin, toute une série de noms qui sont compliqués pour les parents, à vivre, et qui peuvent être ressentis aussi comme une provocation et renforcer la question de la culpabilité, le sentiment en fait de pas y arriver avec son enfant. Et aujourd'hui, il y a aussi de nombreux modèles qui parlent un peu de négociation, en fait, avec l'enfant, pour essayer de lui faire accepter, ce qu'on lui demande. Donc ça serait dans des tentatives un petit peu d'éviter d'entrer en conflit avec son enfant. Ce qui, bon, pour moi, est impossible. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui fait partie de la relation entre l'enfant et le parent et du coup, qui est nécessaire, en fait, à l'enfant. Donc, on va voir un petit peu pourquoi lui, il dit non. Et le fait de négocier, comment ça peut lui être un peu préjudiciable, dans le sens où, en fait, un enfant et un parent, on négocie normalement à place égale. Et un enfant et un parent ne sont pas, en fait, à la même place, chacun à la sienne. Le parent, c'est celui qui doit transmettre les règles et puis les faire appliquer. Et l'enfant, lui, si on essaie de négocier avec lui, il peut aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont aménageables, en fait, alors qu'il y a certaines choses qui sont aménageables, mais il y a des interdits qui le sont pas, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le conflit, c'est un peu impossible à éviter. Et l'enfant, lui, alors pourquoi il dit non et à quoi ça lui sert dans son développement ça lui sert, en fait, à commencer à intégrer justement des interdits, c'est-à-dire qu'il entend le parent qui dit non, et du coup, et ben, il répète, il imite, ça c'est une manière pour lui de commencer à intégrer les choses. Et puis, du coup, il commence aussi à donner son avis en disant non. Et souvent, quand il commence à dire non, il dit je aussi. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Ça veut dire ça lui permet en fait de se construire aussi en tant que personne. Et puis que, bah, il maîtrise ce qu'il entend et ce qu'il comprend. Et souvent, donc, il commence à dire non parce que c'est le parent qui le demande. Il finit la plupart du temps à accepter, donc à faire oui, parce qu'il le veut bien. Donc ça, c'est le processus par lequel il passe. Et puis c'est un non aussi qui lui sert à tester bah, les limites, en fait. Et ça, c'est pareil pour grandir, c'est important. Et alors par rapport à cette question aussi du conflit et de l'opposition, il y a souvent des manifestations d'agressivité de l'enfant à ce moment-là et qui sont alors tout à fait normales dans son développement mais qui peuvent être compliquées à accueillir pour les parents et qui peuvent venir appuyer justement sur cette culpabilité. Donc l'agressivité chez l'enfant, elle est là quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient mettre un peu une barrière à son désir de satisfaction. Et donc souvent, bah, le premier à faire ça, enfin les premiers à faire ça, ce sont les parents. Donc c'est eux qui reçoivent les premières manifestations agressives des enfants. Et alors ils les reçoivent aussi pour une autre raison, c'est que ce sont aussi les premiers objets d'amour et d'attachement d'un enfant. Donc il a besoin aussi pour se développer de venir un peu critiquer bah, les figures parentales, de venir un peu les attaquer. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les ados, du coup. Voilà, c'est réactivé aussi à cette période-là. Et puis aussi pour les enfants vers 7-8 ans qui à des moments peuvent développer aussi des idées comme quoi ils auraient ils s'imaginent des parents meilleurs que ceux qu'il a pour finalement pouvoir y retourner. Donc dans ce sens-là, l'agressivité, c'est pas forcément un sens négatif parce que ça va dans le sens du développement. Donc ça exprime de la combativité, du dynamisme. Donc ça, c'est nécessaire aussi à l'enfant. Et puis ça lui permet aussi de prendre conscience bah, de lui et de l'autre, en fait, dans les mouvements d'agressivité. Et donc ça, on va le retrouver à toutes les phases un peu de développement de l'enfant, donc la marche, quand il commence à dire non, la propreté, et puis après les premiers moments de séparation, l'école, la crèche, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'adolescence. Et donc enfin, pour terminer, ma troisième idée, c'était par rapport à la question de l'autorité. Et notamment en me posant la question de est-ce que poser l'autorité, ça peut être un acte d'amour envers son enfant? Donc moi, ce que j'ai pu observer dans ma pratique, c'est qu'il y avait une tendance en fait à opposer la question de l'amour pour son enfant et la question de l'autorité. Et en fait, ça vient historiquement un petit peu depuis les années 70, où il y a eu des nouveaux modèles d'éducation qui ont été proposés, et puis notamment d'auteurs comme Dolto, qui ont beaucoup communiqué sur les enfants, et notamment par exemple en disant que le bébé ou l'enfant, c'est une personne. Et donc aujourd'hui, on a vraiment l'idée que l'enfant, c'est une personne à part entière, qui a de la valeur, qui a le droit à la parole, au respect. Et que, en fait, l'idée que l'amour et le respect qui vont lui être adressés, c'est ce qui va l'aider à grandir, donc ce qui est vrai en partie. Mais il y a en fait toute une autre partie qui a été un petit peu oubliée, c'est que l'amour et l'autorité, ça a toujours été relié, dans le sens où on peut tout désirer, mais on ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est valable pour un enfant, mais aussi pour nous, les grands. Et donc, le désir, c'est toujours borné, en fait, par des interdits, et des interdits qui vont être importants pour, justement, que l'enfant se construise. Mais avec cette idée et ce malentendu, là, que l'amour et puis l'autorité étaient un peu opposés, y a beaucoup de craintes, en fait, qui sont apparues chez les parents, et puis de culpabilité, avec des difficultés à limiter l'enfant, avec la peur de, que ça les traumatise, que l'enfant ne les aime plus, de se ressentir comme un parent mal aimant, et puis que l'enfant n'aime plus son parent en retour. Enfin, ça, c'est des choses... qu'on peut imaginer et puis qui viennent appuyer sur la culpabilité. Donc l'autorité, elle fait peur avec les représentations d'autrefois sur l'autorité qui sont plus de l'ordre de la soumission, du coup. Donc l'idée de poser des limites, c'est aider l'enfant en fait à passer d'un état à un autre. Et donc avec des concepts qui ont été développés qui sont passés du principe de plaisir au principe de réalité. Donc ça, c'est Freud qui a théorisé ça au départ. Et en fait, l'enfant, il fonctionne selon le principe de plaisir, c'est-à-dire que quand il est petit, il veut tout de suite et par n'importe quel moyen. Donc ça, ça conduit à le rendre, en fait, il se sent comme tout puissant, puis on répond quand c'est des besoins vitaux, mais ça le rend aussi inadapté à la vie avec les autres. Donc les limites, en fait, qui vont être posées par les parents, c'est ça, en fait, qui va venir contrecarrer cette satisfaction chez l'enfant. Et puis, ça entraîne souvent de la culpabilité en lien avec les réactions de l'enfant. Donc, ils vont être des pleurs, des colères, des coups. Il y a des enfants qui disent à leurs parents qu'ils sont méchants, qu'ils les aiment plus, enfin voilà, des choses de cet ordre-là. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un enfant, en fait, à qui on ne pose pas de limites, pour le coup, c'est compliqué pour lui aussi, parce qu'en fait, ça l'angoisse. Alors ça, c'est moins perceptible que ses réactions de colère, mais débordé par la frustration, et puis quand on ne lui met pas de limites, finalement, ça le laisse un peu sans repère. Et du coup, l'enfant, finalement, il est assez prêt à se laisser remettre à sa place à certains moments parce que ça vient le border. Parce qu'en fait, il est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, les limites, il les refuse parce que ça contrarie son bon plaisir, mais à la fois, il va aussi les chercher. Et puis, un enfant qui n'a pas de limites, finalement, il se retrouve un peu en difficulté. Et donc ça amène en fait les parents et les enfants à avoir deux tâches à accomplir, entre guillemets. Donc celle des parents, c'est de poser des limites à ce fonctionnement un peu pulsionnel de l'enfant. Et avec des règles, voilà, selon les âges, donc ça peut être on ne tape pas, on ne mord pas, on ne vole pas, on n'insulte pas. Et il faut qu'il fasse avec fermeté et répétition pour que ça s'inscrive pour l'enfant. Dans le sens où il faut que l'enfant il arrive à inscrire ces règles-là. Si c'est pas clair pour lui et qu'il se sent autorisé à transgresser dans la famille, il y a des chances qu'il s'autorise à le faire ailleurs. Alors si c'est à l'école, voilà, il sera aussi recadré. Mais finalement, les premiers lieux d'expérimentation, c'est aussi dans la famille. Et l'enfant, lui, ce qu'il doit faire, c'est abandonner sa satisfaction immédiate, trouver d'autres moyens pour y parvenir, et aussi s'inscrire dans les règles et les lois avec tous les autres. Donc, par exemple, pouvoir dire à un enfant qu'il ne peut pas continuer à hurler, crier ou se rouler par terre, parce que ce n'est pas une réaction qui est tolérée en fait, dans la société, mais qu'on peut aussi entendre que c'est difficile, c'est sa manière de réagir, mais que ce n'est pas possible. Il faut qu'il trouve aussi d'autres moyens à certains moments. Et en fait, par rapport à la question de la culpabilité, si les parents se sentent légitimes dans ce qu'ils demandent à leur enfant, ils vont aussi ils vont continuer à se poser des questions, mais ils vont comprendre que ce qu'il lui demande, en fait, c'est juste et c'est en sa faveur, c'est pour lui. Et en fait, quand un parent comprend qu'en fait, bah, éduquer un enfant, c'est transmettre des règles de vie, il se rend compte qu'il lui demande rien d'extraordinaire et puis rien de traumatisant. Et qu'à la fois, voilà, c'est pas, enfin, y a, pourquoi ça serait traumatisant de faire comme tout le monde, au final? Donc c'est aussi là que la question de la punition et puis de la sanction, elle peut intervenir. C'est-à-dire qu'un interdit, pour qu'un enfant il l'intègre, donc il faut lui expliquer. Et comme souvent, il va essayer après de franchir un petit peu. Alors soit on lui redit et ça suffit. S'il continue, il n'y a que il y a qu'une punition ou une sanction qui peut lui permettre en fait, bah, de comprendre vraiment la règle. Et un enfant, il va forcément transgresser pour deux raisons. Soit en fait, il ne connaît pas la règle, donc c'est l'occasion de lui expliquer. Soit il la connaît et là il vient vérifier la solidité de cette règle et la solidité de son parent. Et c'est là où ils peuvent aller très très loin, du coup, les enfants, dans cette vérification et aller jusqu'à faire craquer le parent, surtout s'il sent qu'il y a un petit peu de jeu ou que du coup il y a des failles par rapport à, ou des doutes en fait par rapport à ça. Et donc ces interdits, ils lui servent donc à passer à un autre fonctionnement, qui est le principe de réalité. Et là, en fait, il va renoncer à avoir tout tout de suite, il va apprendre à différer. Et en fait, ça va aussi l'amener à chercher d'autres moyens pour satisfaire ses envies, et des moyens qui vont lui servir en fait à son développement. Donc ça va lui permettre d'éveiller sa curiosité, de développer sa motricité, il va réfléchir, enfin, c'est aussi plein de qualités qui vont lui être nécessaires par rapport à l'école par exemple ou l'investissement scolaire. Donc finalement les limites elles servent aussi à ça, à lui permettre de se construire. Donc après, intégrer les interdits, bah, ça ne se fait pas en une fois. C'est une tâche voilà, au continu, au quotidien, pour les parents. Et ça se répète aussi donc, à différents moments de la vie. Et comme je disais tout à l'heure, au moment de l'adolescence, c'est la même question qui se rejoue. Alors pas tout à fait de la même manière pour les adolescents. Là, pour le coup, le terme de négociation, il est peut-être plus adapté, mais parce qu'il y a déjà eu une inscription de la règle, alors que pour un petit enfant, c'est plus compliqué de négocier. Et donc derrière le mythe un peu du parent qui va être zen, cool, qui garde son calme en toutes circonstances, et puis qui dit une fois les choses et que l'enfant comprend, bah ça je pense que c'est un mirage. On aimerait bien que ça existe, mais c'est pas le cas. Et du coup, voilà, les parents, ils ont aussi leurs émotions, enfin, les sentiments, et puis les transmettre aussi aux enfants, c'est pas destructeur pour leur construction. C'est aussi, ça permet aussi de comprendre la gravité, par exemple, de certaines choses. Moi, j'ai un exemple, par exemple. Les enfants, quand ils sont petits, quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, on peut les voir souvent arriver vers le plus petit, et puis on sent que va y avoir un, voilà, alors soit il a un jouet, on ne sait pas, enfin, ça peut être assez compliqué, et que du coup ils sont dans l'agression. Alors c'est vrai que bah, y a des parents qui réagissent, voilà, on repousse l'enfant, on intervient de manière un peu brusque, mais en fait, ça, c'est, on peut en reparler en fait avec l'enfant après, et puis ça lui permet aussi de, bah, de comprendre que c'est grave, et que du coup, par exemple, juste une parole de dire bah non, ne fais pas de mal à ton petit frère ou à ta petite sœur, c'est pas, ça va peut-être pas suffire en fait à l'enfant, mais donc ce qui est important pour c'est pas forcément voilà de s'empêcher de ressentir des moments de colère pour le parent ou même d'agressivité à certains moments, c'est pouvoir peut-être en reparler aussi avec l'enfant et puis dire que par exemple on a eu peur, enfin, et que c'est ça qui a fait qu'on a réagi comme ça. Et du coup, ça, je pense que l'enfant, oui, il peut l'entendre. Et puis, ça peut aussi être nécessaire parce que des fois, la parole, ça suffit pas pour qu'il comprenne du premier coup. Donc, pour terminer, si j'arrive bientôt à la fin, je voulais proposer une définition un petit peu autour de l'amour. Donc, finalement, aimer un enfant, ça serait lui apporter une parole en permanence. De l'amour et des limites, non pas pour garder l'enfant pour soi, mais pour le rendre capable de vivre un peu plus loin de soi chaque jour et avec les autres. Et ça, c'est un peu la particularité de l'amour parental par rapport à l'amour en général. C'est-à-dire que voilà, on éduque, on transmet aussi des choses à son enfant pour qu'il soit le plus autonome possible et qu'il puisse se séparer en fait de son parent. Voilà. Nickel.
Et l'entraînement
Peut-être pas assez, mais bon.